Vladimir Jankélévitch à la Sorbonne. 1961-1962. Les 9 premières séances du cours La Tentation. Aujourd'hui, Tentation et Liberté, première partie. Enregistré le 4 décembre 1961.
Mesdames, Messieurs, si j'avais à établir un lien entre le cours de cette année et celui de l'année précédente, il faudrait dire que chronologiquement, celui de cette année aurait dû précéder. Car s'il y a un lien entre la déception que j'ai étudiée l'an dernier et la tentation, c'est assurément que la déception suit la tentation, plutôt que l'inverse. Mais je n'essayerai pas de vous faire croire qu'il y a un lien entre les deux. Peut-être qu'il apparaîtra malgré moi au cours de ce cours. J'espère même qu'il apparaîtra. Mais en tout cas, ça n'était pas été mon intention d'établir entre eux une continuité. Dans l'événement que nous étudierons cette année, dans cet événement de la vie morale qu'est la tentation, tout annonce la complexité, l'impureté, la richesse composite, et par conséquent, tout sollicite l'analyse qui sert à débrouiller les fils de ce complexus et qui sert à en débrouiller les composantes. La première remarque donc qui s'impose à nous, et qui est donc favorable à une étude, c'est justement la complexité, la duplicité de la tentation qui apparaît dès que le mot lui-même est prononcé. Et en deuxième lieu, une autre circonstance favorable à une pareille étude, et c'est le rapport entre la tentation et la durée, et le temps, et le devenir, dans la durée, dans le devenir, la tentation apparaît comme une situation tendue, et nous verrons du reste le rapport qu'il y a entre la tentation et la tension, bien que ce ne soit pas du tout le même mot. C'est un état instable, critique, et qui ne peut pas durer, et qui est par conséquent provisoire. La tentation est provisoire et ne peut pas durer, même si le conflit est imaginaire, même s'il est inventé par l'homme, par une imagination échauffée et enfiévrée, il n'en reste pas moins que c'est un conflit aigu et qui doit se résoudre dans un sens ou dans l'autre, comme toute situation tendue. Et il doit se résoudre comme doit se résoudre la décision d'une volonté libre à la croisée des chemins, au carrefour des possibilités, et qui hésite entre des éventualités opposées, entre des entités différentes. Il y a certaines analogies, nous les verrons au fur et à mesure de cette étude, entre la décision volontaire à la croisée des chemins et l'homme tenté, notamment, ce sont dans les deux cas des situations vertigineuses. Cédera-t-il ou ne cédera-t-il pas? Est-ce qu'il capitulera ou est-ce qu'il ne capitulera pas? Oui ou non? Donc, de toute façon, l'homme tenté, et c'est en cela qu'il sollicite notre curiosité, et que nous l'interrogeons, nous le consultons, nous essayons de lire sur son visage, dans les muscles de ce visage tendu, de ses yeux, qui se repaissent par avance, de ce spectacle, nous interrogeons sur la décision de cet homme sur le seuil, ou sur le rebord extrême de quelque chose. Et on peut donc s'expliquer aisément qu'un pareil sujet de cours ait été choisi en 1961, n'est-ce pas ? Il est bien propre, en effet, à éveiller la curiosité de l'homme moderne, toujours en éveil, quand il s'agit de phénomènes de liminarité, comme on dit, c'est-à-dire de phénomènes de passage, de mutation, qui sont sur le seuil. Tout nous attire vers cet instant passionnant de la mutation, mais avec cette différence que ce n'est pas une mutation quelconque, c'est une provocation à la mue, si vous voulez, n'est-ce pas, parce qu'il y a un objet tentant dont on peut qu'on ne peut pas oublier. Ce n'est pas seulement que l'homme est sur le point de se métamorphoser, est en instance de mutation, c'est encore qu'un objet, un spectacle quelconque, va provoquer cette mue, la mue de l'innocence. Il y a donc, comme dans la tentation, c'est pourquoi elle a en soi un intérêt philosophique, ce n'est pas pour faire l'article, pour ce cours, mais c'est pour expliquer pourquoi je l'ai choisi. Et il y a en elle le passage à quelque chose d'autre, et comme dans beaucoup d'autres phénomènes du même genre, nous pourrions peut-être y surprendre en elle qu'elle, dans sa flagrance, le secret de l'avènement. De l'avènement à un autre ordre, de l'avènement de la possibilité. Ainsi, les deux remarques qui s'imposent au seuil de cette étude, c'est d'une part la complexité interne et surtout la duplicité de l'événement, j'allais dire du phénomène, mais c'est bien plutôt un événement, et en deuxième lieu, c'est le caractère de liminaire, initial, et de passage, de mutation qui le caractérise. Ce caractère de mutation, on peut encore le rendre plus précis en évoquant certains aspects de la sculpture baroque, que je ne connais pas spécialement bien, mais tout au moins qui peuvent éclairer de manière générale l'intérêt de la conscience moderne pour la tentation. Car on remarque souvent dans la sculpture baroque une prédilection pour les formes instables, une étude des formes saisies dans leur équilibre périlleux, des statues penchées sur le vide, au bord d'un toit, n'est-ce pas, des objets penchés. C'est-à-dire l'homme sur le point de se précipiter dans le vide. L'homme est attiré, comme vous le voyez, non point par les formes stables, en équilibre, comme la Pallas Athénée de Phidias, mais est attiré par l'homme sur le bord du précipice et étudie cet équilibre instable comme un défi acrobatique aux lois de la pesanteur, aux fatalités de la pesanteur. L'homme sur le point de se précipiter dans le vide. Eh bien, est-ce que la tentation n'est pas un peu cela? Et notre étude de la tentation, elle n'est pas un peu sollicitée par la curiosité que nous avons pour l'homme sur le point, en équilibre instable, et sur le point de céder à la gravitation, à la pesanteur, cette fois du péché, de la matière, enfin de la sensualité, de tomber plus bas quelque part. Et il y a le phénomène de vertige, sur lequel nous reviendrons, si étudié par Renouvier, et qui est commun à cet égard, qui est commun à la statue sur le bord du toit, ou à la statue en équilibre instable, qui ne tient que sur un pied, et qui ne tient qu'à un fil, et l'homme suspendu au péché. Sa vertu ne tient qu'à un fil, c'est bien le cas de le dire. On retrouve perpétuellement cette obsession de l'équilibre instable, de la précipitation dans le vide, dans ces phénomènes de tentation, et même si nous relisons des textes que certainement vous connaissez encore bien mieux que moi, je veux dire les textes de l'Évangile sur les tentations de Jésus dans le désert, vous remarquerez en les relisant avec après ce que j'ai dit, que dans la deuxième tentation, celle qui a le numéro 2 dans l'Évangile selon saint Matthieu, parce que je crois bien que dans celui selon saint Luc c'est interverti, la deuxième devient troisième et la troisième deuxième, mais peu nous importe en ce moment, puisque nous ne faisons pas de l'exégèse. Dans la deuxième tentation, Satan emmène Jésus sur le pinacle du temple, et il lui dit « Balai se auton kato, précipite-toi en bas ». Et il dit la même chose selon saint Luc, « Balai se auton enteten, d'ici kato, jette-toi en bas ». Et dans la troisième, également, d'une autre manière, Satan emmène Jésus sur une haute montagne, Eisoron Upsalon, sur une montagne élevée, et pour lui montrer les puissances, les dominations, les royaumes de ce monde, et il lui demande ensuite de tomber à ses pieds, à ses pieds à lui, Satan, et de se prosterner devant lui. Pesun proskunesses, moi. Et ces expressions se retrouvent également chez saint Luc, où je lis également Anagagon, auton, Satan ayant conduit Jésus vers la hauteur. Il y a donc la hauteur, le vertige, qui sont des thèmes constants, comme vous le voyez, de la tentation, qui est l'attrait vertigineux de la pesanteur. Comme je le disais il y a un instant, l'homme tenté ne tient plus qu'à un fil, ou il ne tient plus que sa vertu tient comme par miracle. Supposez par exemple le grand lustre de l'Opéra de Paris, n'est-ce pas, dont toutes les attaches auraient été rompues sauf une. Le jour du bal de l'école polytechnique, de la crépuscule des dieux, enfin quelque chose de très parisien, le lustre et de l'opéra est tenté lui aussi. Mais il est tenté par la pesanteur, il est tenté de s'écrouler sur les spectateurs du rez-de-chaussée. Voilà donc, comme vous le voyez, une certaine analogie entre la pesanteur, le phénomène de la pesanteur et la tentation, et qui nous sollicitera à tout moment, que nous retrouverons à tout moment, que nous étudierons l'idée même de la faute, qui après tout est conçue comme une chute, n'est-ce pas, et précédée par la tentation et le désir d'y succomber. Donc, le problème véritablement philosophique de la tentation serait de surprendre la conscience une seconde avant la chute, ou à un millimètre en deçà du rebord, à partir duquel elle perdra son équilibre. Donc, en instance de péché, mais bien entendu, avant que le péché ne soit commis, tout à l'heure, il sera commis, ou bien il ne le sera pas, enfin, dans les deux cas, l'homme sera sauvé ou sera damné, il sera dans la vie d'un pécheur ou d'un homme vertueux, mais notre problème lui-même aura disparu. C'est donc donc un problème de flagrance qui est difficile à saisir et qu'on ne peut saisir que sur le moment lui-même, comme il arrive dans l'éthique et dans la... C'est comme une psychologie et comme une éthique baroque, n'est-ce pas, qu'il nous faudrait pour le comprendre. Et pour comprendre ce problème de l'homme en suspens. Eh bien, nous pouvons, avant d'aller plus loin, énumérer un certain nombre de caractères généraux de l'homme tenté, avant d'exposer les différents moments de notre étude, d'en faire le programme et la table des matières, que naturellement je respecterai pas après l'avoir indiqué. Enfin, il faut tout de même bien que nous ayons un plan d'étude, tout au moins pour faire semblant. Et il y aurait donc, avant d'étudier ce plan, avant de vous le proposer, quelques caractères généraux qu'il n'est pas impossible d'énumérer. A priori, j'en vois quatre, mais je reconnais que ces quatre caractères se ressemblent comme des frères et que, au fond, ils n'en sont qu'un seul, ils ne sont qu'un seul et même caractère vu dans quatre langages différents. C'est la même chose. Après avoir dit, donc, que ces quatre caractères reviennent au même, il me sera permis de les distinguer quand ce ne serait que pour des raisons pédagogiques et pour la commodité de notre propos, pour que ce soit plus clair. Et nous commencerons d'abord par un caractère très général et qui enveloppe déjà à lui seul tous les autres et qui est, si on peut dire, l'appeler ainsi, l'imminence, qui explique la tension de la tentation. Qui explique le fait que la situation de l'homme tenté est une situation tendue, naturellement tendue. Ici, je rejoins un cours que j'ai fait, non pas l'année dernière, mais il y a 2 ans, sur l'immédiat, et qui pourrait, à cet égard, servir d'illustration. Il y a, dans la tentation, si c'est vraiment de l'homme tenté qu'il est question, de ce problème original, et pas d'un autre, pas de celui du péché, par exemple, l'idée que l'ajournement n'est plus possible, qu'il y a un danger imminent et immédiat. N'est-ce pas, à la portée de la main. Quand Adam est tenté, il n'est pas tenté par des considérations générales, il est plus tenté que Jésus, si vous voulez, parce que Jésus est tenté par un grand panorama qu'on lui offre, des miracles à faire, des faux miracles, des royaumes et des dominations de ce monde, tandis que Adam, il est simplement tenté par un beau fruit, n'est-ce pas, qui est là, à la portée de sa main, à 1 mètre de lui, et dont il peut respirer l'odeur, le parfum, et qui est sur un arbre. Il y a donc l'idée de l'imminence et de l'impossibilité d'ajourner, qui est donc la forme temporelle de l'immédiateté, plus d'intermédiaire. Et si c'est un ennemi, comme on le pense souvent, quand on veut que la tentation comporte encore un personnage dont nous n'avons pas parlé, nous n'avons pas parlé de tout aujourd'hui, mais nous en parlerons, qui est le tentateur, l'ennemi, s'il y a un ennemi, est devant nous. Et toutes les défenses intermédiaires sont tombées, tous les glacis intermédiaires sont tombés, et cette fois, il s'agit du combat suprême. Il s'agit du combat suprême. C'est donc le moment de savoir, comme nous le disions, si nous capitulerons ou si nous ne capitulerons pas. Si, comme dit l'Évangile, comme Jésus au désert, nous dirons au monstre Upagé, Satana, n'est-ce pas, recule, Satan, ou si au contraire, nous l'admettrons, si nous lui dirons oui. Et par suite aussi, dans la même ligne de pensée, c'est-à-dire de l'imminence, de l'immédiateté, de la disparition des intermédiaires, la tentation suppose à sa manière une sorte de simplification manichéenne de la situation. Une simplification manichéenne, une simplification symbolique du drame moral. Il y a dans la vie morale des conjonctures simplifiées, simplifiantes, dans lesquelles il peut arriver que tout se résume dans un monosyllabe, de dire oui ou de dire non. C'est des cas dans lesquels, comme il arrive aussi que dans l'histoire des sciences, les problèmes se simplifient à l'extrême, qu'il s'agit de savoir si telle planète ou telle comète confirmera par son passage telle ou telle théorie. De même, il arrive dans l'existence morale de l'homme que tout soit suspendu à une seule chose, que tout dépend de ces 3 lettres, les 3 lettres qui composent le mot oui ou le mot non. Tout dépend, tout est suspendu au mot du péché, et c'est pourquoi on dit que l'industrie du diable, du tentateur, le peyrazone, s'il y a un diable, c'est d'obtenir ce monosyllabe. C'est d'obtenir que l'homme profère ces 3 lettres. Tout est suspendu au mot du péché, comme tout est suspendu au mot du mensonge. Eh bien, cela représente une simplification de la situation, une symbolisation, si vous voulez, du problème moral, devenu très simple, et que j'appelais manichéenne, parce que, comme l'indiquent les deux monosyllabes, précisément, du oui et du non, il y a 2 options, et pas 3. comme peut-être l'homme en aurait l'arrière-pensée, qu'il y ait un moyen d'éluder l'alternative, de biaiser, d'y échapper, de trouver un troisième terme. Capitulerons-nous ou résisterons-nous? Voilà à quoi se ramène donc le problème ainsi simplifié, qui suppose donc l'existence du bien et du mal uniquement, de la voie de droite et de la voie de gauche, bref, de la bifurcation morale. Impossible donc, ceci est y compris dans la tentation, pas immédiatement, mais si vous y réfléchissez seulement 3 minutes, pas davantage, vous retrouverez ces idées dans la tentation, et s'il y a tentation, ça veut dire qu'il est impossible de cumuler, de biaiser, d'éluder, d'être à la fois bon et mauvais, de céder en ne cédant pas, de ne pas céder en cédant. On ne peut pas à la fois manger le fruit et ne pas le manger, n'est-ce pas? C'est céder à l'attrait et lui résister. Et il y a donc des conjonctures dans la vie dans lesquelles l'homme, qui en général trouve toujours le moyen de s'échapper, n'y arrive plus. C'est les cas dans lesquels il est tenté. Enfin, il ne trouve plus la voie du milieu qui est si providentielle en général. Le choix, qui est une absence de choix, la neutralité, lui est interdite. Ni l'autre homme, ni l'un ni l'autre, ce dont l'homme a tant envie. Eh bien, là, il ne le trouve pas si vraiment il est tenté. Il n'y a plus de neutralité. Donc, je vois assez, sous ce premier jour, approfondissant ce premier caractère, la tentation comme une mise en demeure, comme un ultimatum. Et un ultimatum, mise en demeure, qui a comme effet dans nos idées morales, religieuses, souvent bien mythologiques, mais enfin, qui est encore très présente dans l'idée de la tentation, de transformer la peccabilité diffuse de l'homme, de mettre en danger l'homme en transformant la peccabilité diffuse en une culpabilité concentrée, n'est-ce pas ? De condenser la peccabilité générale en culpabilité. À la vue d'une pomme, d'un fruit, puisque bon, le symbole même de la tentation, n'est-ce pas, la peccabilité diffuse est en train et tentée de devenir une culpabilité expresse, particulière, ou bien inversement, au contraire, de profiter de l'occasion. L'homme peut profiter de l'occasion pour se racheter et devenir un homme vertueux. Et ainsi, la tentation de la faute, de la chute, est comme une précipitation dans plusieurs sens du mot. Nous en étudierons un autre tout à l'heure. Et d'une précipitation de la culpabilité, qui est en effet, dans tous les sens du mot, tentée par le précipice. L'homme se précipite quand il est tenté justement par le vide, par l'abîme du précipice, et en même temps, dans un autre sens, non seulement l'homme se précipite vers le précipice, mais encore, l'homme est tenté par l'actualisation de cette culpabilité virtuelle, et simplement latente. L'homme peccable est sur le point de devenir un pécheur en acte, non plus seulement susceptible de pécher, mais devenir un pécheur. C'est donc dans le passage de l'un à l'autre que se situe le seuil de la tentation, dans le passage de l'homme peccable à l'homme pécheur en acte. Ou encore, dans le temps, grâce à la tentation, par la tentation, ou plutôt par sa faute, que grâce à elle, par la faute de la tentation, la possibilité lointaine est en train de devenir une éventualité prochaine. La possibilité générale, abstraite, platonique, théorique de péché devient une éventualité, non plus seulement une possibilité, mais une éventualité prochaine, c'est-à-dire concrète, palpable et à la portée de la main. Comme tout à l'heure, nous le disions, elle s'incarne maintenant dans le fruit dont nous parlions tout à l'heure, le beau fruit d'or qui luit dans l'ombre, comme dit le grand poète belge Van Lerberg dans la chanson d'Ève. De beaux poèmes sur la tentation. Dans la chanson d'Ève de Van Lerberg, mise en musique par Forêt, nous trouvons l'idée de cette tentation représentée par le beau fruit d'or dans les feuillages sombres. Vous voyez donc la différence entre la tentation et les marques distinctives de la tentation qui la distinguent des autres événements de la vie morale. Les trésors de Golconde, les trésors des Maharajas suscitent des envies indéterminées, générales, théoriques, des rêves platoniques. Mais une grappe de raisin qu'on peut voler à l'étalage, n'est-ce pas, qu'on peut emporter comme ça, sans la payer, et l'objet immédiat d'une tentation, n'est-ce pas. Il ne s'agit donc plus d'un désir indéterminé, abstrait et théorique, mais il s'agit de quelque chose de concret. Et l'alternative que la tentation crée pour nous est une alternative prochaine et familière. Il s'agit donc bien, comme vous le voyez, d'un événement familier, objet d'un choix et d'une option tout à fait concrète et particulière. D'autre part, Précipitation, la tentation, elle est encore dans un autre sens, dans un troisième sens. J'en ai distingué déjà deux, n'est-ce pas ? L'attrait du précipice et puis le précipité chimique, en quelque sorte, par lequel la culpabilité diffuse se précipite et devient un péché, un gros péché, visible à l'œil nu, n'est-ce pas ? Un péché concret, comme un mensonge, un menteur pris en flagrant délit de mensonge. Il a dit son mensonge, il l'a dit enfin. Et il y a encore un troisième sens, dans lequel, également temporel, dans lequel on peut employer ce mot de précipitation. La tentation est curieuse à étudier parce qu'elle est une condensation passionnée et dramatique du temps. Elle est une condensation, une précipitation du temps qui se précipite comme au cinéma. Comme dans le temps du cinéma, qui est un temps où on fait énormément de choses, surtout dans les films d'action. Et beaucoup de choses se passent au cinéma. Eh bien, de la même manière, l'intensité des événements s'exalte dans la tentation. C'est donc un moment privilégié de la vie morale qui ressemble assez aux périodes révolutionnaires de l'histoire. Dans les périodes révolutionnaires, il arrive qu'au cours d'une seule, après-midi, il se passe plus de choses qu'au cours d'un siècle dans la vie des peuples heureux, que ceux qui n'ont pas d'histoire, puisque il paraît que les peuples heureux sont ceux qui n'ont pas d'histoire. Eh bien, de la même manière, dans une période révolutionnaire de la vie morale, il se passe dans un instant, n'est-ce pas, l'instant de l'homme tenté, des choses décisives. Et quelquefois, une vie entière peut se dérouler sans d'une vie ennuyeuse, sans que ces événements se présentent à nous. L'homme est donc suspendu dans l'attente d'une explosion. Et par conséquent, une fois de plus, c'est un moment privilégié pour l'étude de l'avènement des événements. L'avènement de l'événement, des grands événements, comme les journées révolutionnaires, qui peuvent décider du destin d'un homme, le transformer profondément. Voilà une série de réflexions qui concernent mon premier point, le premier caractère de la tentation, et qui ont trait en général au caractère temporel de la tentation, à la chronologie, à la durée, à ses rapports avec la durée. Mais d'autre part, en voici un deuxième caractère qui, je le répète, n'est qu'un aspect du premier, mais peut quand même en être détaché et être étudié à part. Et dans l'équilibre instable de l'homme tenté, qui se trouve entre deux mondes, dans la situation tendue où il se trouve, eh bien, l'homme est susceptible de poser un autre monde. Il est sur le bord de l'avènement d'un autre monde. Naturellement, dans sa pensée et dans notre pensée à nous, lorsque nous parlons de tentation et quand l'homme se sent lui-même tenté. Quand il s'estime tenté, n'est-ce pas, et quand nous parlons de tentation, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'un peu grave, solennel, qui a beaucoup de poids, qui aura de longues conséquences, qui déroulera pendant longtemps ses conséquences. Et ça veut dire que l'homme est sur le bord d'un ordre nouveau, et sur le point de poser un ordre nouveau. Naturellement, je parle des cas privilégiés dans lesquels cela vaut la peine de parler de tentation, et non point de tentation comme on en parle dans la vie courante, quand une dame est tentée par une vitrine de magasin, simplement par un article trop cher dans un magasin, de l'acheter ou de ne pas l'acheter, ne pose pas un ordre nouveau, n'est pas un avènement à un ordre nouveau, aussi ne parle-t-on de tentation que par manière de dire. Mais quand on parle moralement de tentation, on pense toujours, plus ou moins, que l'homme est sur le point d'inaugurer un ordre nouveau. Une ère nouvelle qui est l'ère de l'homme coupable, l'ère de la culpabilité. Et c'est en cela que le oui n'est pas indifférent, mais que le oui est un péché. De prononcer le mot de oui est un péché, comme si vous voulez, le faiblissement d'un homme dans les tortures, n'est-ce pas ? Cette fois, c'est plutôt un peu l'envers de la tentation, à qui la Gestapo demande de livrer un nom, n'est-ce pas ? Et qui, s'il faiblit, livrera le nom qui servira à démanteler un réseau, à faire arrêter tous ses camarades, etc. Donc, de dire un nom, un seul nom, Paul ou Pierre, n'est-ce pas ? Est-ce Paul ou est-ce Pierre ? A des graves conséquences, puisque cet aveu est capable d'affaiblir la résistance, etc. Il y a donc le cas dans lequel de prononcer un nom peut inaugurer un ordre nouveau et avoir de graves conséquences, un grand retentissement. Et c'est pourquoi on peut dire littéralement que l'instant solennel de la tentation, à sa manière, fait époque, en prenant le mot « faire époque » dans son sens littéral. C'est un instant qui pose l'intervalle. L'instant décide de l'intervalle. Le moment créera une époque et une période, engendre une période. Eh bien, en cela, le fiat de la tentation, qui dénoue l'instant en intervalle, fixe le cours des choses et le destin de l'homme, croyons-nous, pour une longue période. Pour une période qui est une, ce que nous appelions l'ère nouvelle. En cela, on peut dire que dans l'instantanéité de la réponse de l'homme à la tentation est préformée déjà toute une continuation chronologique. L'initiative est donc décisive. On peut assez aisément se représenter l'homme tenté comme étant en quelque sorte à la charnière entre deux mondes, à la charnière de deux mondes, sur la ligne de fait qui les partage. L'un et l'autre. Il est comme un somnambule qui se promène sur le bord des toits ou sur les gouttières, n'est-ce pas, prêt à tomber sur un versant ou sur l'autre. Et tel apparaît l'homme tentable. L'homme tentable est donc un homme qui est aussi bien, qui n'est d'une part, qui n'est pas un saint inattaquable et invulnérable, d'une part, et d'autre part, il n'est pas non plus le pécheur déjà par terre. Et donc, privé d'espérance, privé de toute force potentielle, l'homme déjà tombé, l'homme déjà déchu. L'homme tentable est donc entre les deux. Il ne représente ni l'invulnérabilité du saint, qui est à l'abri de toute tentation, puisqu'il est au contraire exposé, ni non plus l'homme qui croupit déjà dans les marécages du vice, qui est déjà parmi ces eaux dormantes du vice. Dire que l'homme dans la tentation et par la tentation pose un ordre nouveau et par exemple un ordre coupable, c'est dire d'une autre manière qu'il s'agit d'une véritable mue éthique, comme tout à l'heure nous le disions. Mais cela peut s'exprimer encore dans un autre langage qui revient au même. Ce sera mon troisième caractère. Mais vous aurez bien du mal à les distinguer entre eux. Je vous en avertis, comme moi-même, j'ai eu du mal à les distinguer. Ce qui revient au même, qui est une autre façon de formuler la même solennité, la même gravité, c'est de dire que le processus engagé par le faiblissement de l'homme tenté, s'il faiblit, est un processus irréversible. Dans le temps, ce processus est irréversible. On ne peut pas revenir en arrière. Cela revient au même, car, bien entendu, dire que l'on pose un ordre nouveau et dire qu'il est impossible de revenir en arrière reviennent au même. Mais je l'exprime sous une forme plus précise, en montrant que dans nos idées, probablement erronées d'ailleurs, il faudrait les analyser minutieusement, nous pensons que l'homme ne peut pas défaire ce qu'il a fait. Il y a d'ailleurs, à cet égard, une dissymétrie entre les deux éventualités, du oui et du non, dissymétrie bien propre à entretenir notre pessimisme et notre misanthropie. Ce pessimisme, cette misanthropie, consiste à penser que le mal est plus exubérant, plus foisonnant que le bien, que la végétation du mal est plus luxuriante que le bien. Nous pensons en effet que si nous disons oui au péché, eh bien à la tentation, en l'espèce, ce oui instaurera un ordre nouveau, un ordre coupable, et que cet ordre est irréversible. Tandis que si nous résistons, eh bien notre résistance, notre victoire elle-même, nous paraît être une victoire précaire. Est-ce juste? N'est-ce pas juste? Je crois que ce n'est pas juste, mais en tout cas, dans nos idées, il y a cette dissymétrie qui est contenue. Cette dissymétrie consiste donc à penser que le non est définitif, que le oui est définitif et nous rend à jamais coupables, tandis que le non représente une victoire toujours contestée, toujours remise en question. Et que, en somme, il n'y a pas de victoire définitive. L'instant d'après, cette victoire peut être de nouveau compromise. Et par conséquent, l'homme est obligé de lutter perpétuellement. Il y a un agone, une lutte incessante, au lieu que la défaite seule paraît définitive. Si bien que, dans l'idée de l'irréversibilité, est contenue cette pensée mélancolique et même désespérée que les chemins de l'homme sont étroits, que la vie est austère et que étroite est en général la marge du bonheur et restreinte sont nos espérances, puisque notre victoire est toujours précaire et toujours contestée à l'infini. Donc, à droite, une victoire toujours fragile, et à gauche, au contraire, une éternité d'abaissement. Voilà ce qui est pour nous contenu dans la tentation, et ce qui rend notre réponse si scabreuse et si difficultueuse. En tout cas, quoi qu'il en soit, et bien que ce ne me paraisse pas du tout juste, il n'en est pas moins vrai que c'est cette pensée de l'irréversibilité qui donne à la décision de l'homme tenté quelque chose de grave, une solennité toute particulière, et en raison de l'importance de l'enjeu. Simplement parce que Ève a été tentée par le serpent et Adam par Ève, et s'est simplement laissé aller à mettre la dent dans une pomme dans laquelle il était défendu de mordre, et bien rien que parce qu'il a fait ça, il y a toute une histoire irréversible qu'on ne peut pas défaire, avec ses conséquences, ses massacres, et qui déroule encore aujourd'hui ses conséquences. Donc simplement un instant pour faiblir et toute l'histoire pour en réparer les conséquences. La disproportion qu'il y a entre l'insignifiance de la tentation, le caractère fugitif de l'instant du faiblissement et la longueur du retentissement historique est bien propre ici à éveiller notre attention et signifie une fois de plus l'irréversibilité choquante et surprenante, mystérieuse qui existe pour l'homme dans cette décision. C'est donc l'impossibilité de revenir en arrière au cas où par hasard on en aurait douté, et il n'y a pas à en douter puisque à cause de ça et pour cette petite faute, pour cette peccadille, l'homme est obligé de retourner à la terre, à la production, et de travailler le sol, comme on dit, pour qu'il n'y ait aucun doute, comme vous le savez, à la fin du chapitre, on voit que Dieu poste des chérubins à l'épée flamboyante pour assurer le sens unique, pour empêcher celui qui aurait envie de revenir en arrière, pour barrer la route, pour régler donc l'unilatéralité de la circulation, si on peut s'exprimer ainsi. C'est le rôle de l'ange gardien, de l'ange, le chérubin gardien. Enfin, je termine par un caractère si important qu'il nous retiendra en somme pendant toute la durée de cette année, et que nous allons le retrouver dans un instant même, en abordant les différentes matières de notre propos. Nous ne parlons, pour terminer, ceci est mon quatrième et dernier caractère, nous ne parlons de tentation que là où l'homme reste libre de dire non. La possibilité du oui et du non, la possibilité de capituler ou de résister ou de céder, l'alternative même du haut, du où, ou bien, ces alternatives expriment d'une autre manière que l'homme est libre. Et que la décision, avec ses suites irréparables et incalculables, dépend de notre liberté. Les suites irréparables et incalculables ne dépendent plus de ma liberté, mais le mot du commencement en dépendait. C'est la façon qu'a l'homme d'être libre. Il est libre pour le commencement, mais il n'est pas toujours libre, et généralement il ne l'est plus pour les conséquences, comme l'apprenti sorcier. Il ne veut plus les arrêter. Donc, la tentation n'est pas une situation simplement en suspens. Il ne suffit pas de dire, comme nous l'avions dit dans les premières phrases de ce cours, il ne suffit pas de dire que la tentation est une situation en suspens, car la suspension, elle pourrait dépendre de la fatalité et du hasard, comme dans les films de suspension, où nous ne sommes pour rien, nous nous demandons ce qui va arriver. Nous ne savons pas si le destin dira oui ou non. Donc, il ne suffit pas de dire que tout est en suspens si on n'a pas ajouté immédiatement que cette décision en suspens dépend de moi, n'est-ce pas ? Et non point du hasard ni de la fatalité. Elle dépend de mon libre arbitre. Et par conséquent, la tentation présuppose le libre choix sans lequel on ne peut la comprendre. Je ne suis tenté que parce que je ne suis pas forcé d'adhérer et parce que j'ai quand même la force de résister, si forte que soit la tentation, et à la fin de ce cours, quand nous étudierons les moyens d'y résister, si tant est qu'il y ait à y résister, nous verrons que, en ce sens, il n'y a pas de tentation irrésistible et que l'irrésistibilité de la tentation est fabriquée par l'homme lui-même qui a décidé par avance d'y céder. Mais je m'aperçois que je suis en train de faire ma dernière leçon du cours, il est donc temps de revenir à la première et de ne laisser là la conclusion. Alors maintenant, comment allons-nous étudier ces différentes matières ? Après avoir étudié quatre caractères de la tentation qui toutes tournent autour de son imminence, de la situation liminaire, passionnante, aventureuse, de l'avènement, ou de l'avènement moral d'un autre ordre, comment allons-nous faire pour l'étudier ? Nous évoquions tout à l'heure, et il n'y a encore que quelques secondes, la liberté au carrefour des possibilités. Et en effet, il y a, comme dirait Renouvier, un vertige de la liberté oscillant entre deux directions différentes, comme il y a un vertige de l'homme tenté, hésitant entre son devoir et son envie, entre la loi et la volupté. Seulement, vous voyez tout de suite la différence qui frappe dès l'abord entre ces deux vertiges, entre ces deux hésitations. Dans la décision de la volonté, l'hésitation est entre deux modes d'agir, n'est-ce pas ? Prendrai-je la voie de droite ou la voie de gauche ? Signerai-je ou ne signerai-je pas ? Dirai-je oui ou non à telle ou telle partie, à telle ou telle institution ? Il s'agit donc de deux modes d'agir, même si l'un, après coup, me paraît vertueux et l'autre sensuel ou vicieux. Tandis que, dans la tentation, je n'ai pas le choix entre deux modes d'agir, le débat, le conflit, l'alternative, cela se voit tout de suite, et entre deux éventualités dont l'une seule est tentante. Il n'y en a qu'une qui me tente, n'est-ce pas ? J'ai pas le choix entre la pomme et la poire, n'est-ce pas ? Le péché d'Adam ne consiste pas à avoir mangé une pomme au lieu de manger une poire, mais à savoir s'il fallait manger ou ne pas manger, tout simplement. Donc, il ne s'agissait pas d'un conflit entre deux choses, deux éventualités, deux possibilités, mais d'un conflit entre une chose tentante et une qui ne l'était pas. L'alternative se réduit, je le répète pour la troisième fois, est entre céder ou résister. Elle n'est pas entre aller à droite ou aller à gauche. Donc, on en voit tout de suite que même quand il y a une victoire, la victoire n'est jamais qu'une victoire de défensive. N'avoir pas cédé, avoir résisté. Le bon choix est généralement l'abstention, c'est de ne rien faire, de ne pas manger, de ne pas céder, de ne pas répondre au sourire, n'est-ce pas ? De ne pas écouter, comme on dit aux demoiselles, ne regardez pas ceux qui vous sourient, passez dans la rue sans regarder personne, n'écoutez pas les sirènes, comme Ulysse, n'est-ce pas ? Ne pas faire, ne pas écouter, ne pas regarder, ne pas manger, ne pas se retourner, il ne s'agit donc que de conduite négative. Comme vous le voyez, la victoire elle-même a un caractère négatif et non point positif. Et malgré cela, tout de même, on peut concevoir, et non seulement on peut le concevoir, mais on le doit, comme je le montrerai, une autre tentation qui est plus active que la tentation que je décris ainsi. Parce qu'en parlant de, comme je le fais, je décris une tentation passive de l'homme patient, sollicité par un sourire, un arc-en-ciel, un reflet dans l'eau, un mirage, un fantasme, tenté par une musique. Et donc l'homme patient. On peut concevoir une tentation d'agir, une tentation de se mouvoir, une tentation de parler même, une tentation dans laquelle, d'une manière ou d'une autre, la spontanéité paraît plus grande. Par exemple, on n'est pas seulement tenté par un sourire, on est quelquefois tenté de monter à l'Everest, n'est-ce pas ? Ce qui est une tentation austère, une tentation dangereuse, de monter sur une montagne inaccessible, de monter, comme on dit disent les journaux, aujourd'hui, au Mont Blanc par une pente inviolée, n'est-ce pas ? Voilà donc une tentation active. Eh bien, cela, si nous y prenons garde, nous offre un peu le plan de notre propos. Nous étudierons successivement la tentation passive et la tentation active, qu'on pourrait, si vous voulez résumer, par les deux verbes latins, temptare et tendere, sans vouloir exagérément jouer sur les mots. D'ailleurs, le jeu de mots n'est pour rien là-dedans, car les mots ne viennent non pas de la même origine. Et d'autre part, il m'arrivera bien souvent de parler de la deuxième à propos de la première, et réciproquement. Je m'en excuse par avance, mais déjà, il est possible théoriquement de distinguer les deux. Il y a d'une part une tentation centripète, qui est celle de l'homme tenté au passif, celle que j'exprimais par le verbe tentare, ou temptare, n'est-ce pas ? Le verbe latin, temptare, dans lequel l'homme tenté est surtout passif, et dans lequel surtout on ne peut pas faire abstraction du pôle magnétique de la tentation, qui est l'objet tentant. Le centre de notre recherche, dans la première partie, dans la tentation passive de l'homme tenté ou éprouvé, c'est l'objet tentant, la chose miroitante, le beau bijou, n'est-ce pas, le bijou qui scintille de ses mille feux dans la vitrine, le fruit d'or qui luit dans l'ombre, n'est-ce pas. Eh bien, le fruit, le bijou, le sourire, ou tout ce que vous voudrez, n'est-ce pas. Voilà donc l'objet central, le pôle magnétique autour duquel gravite la conscience tentée, n'est-ce pas. car c'est la gravitation qui précède la chute. La pesanteur elle-même sollicite vers l'objet la conscience tentée, mais comme en même temps elle est tirée par une autre force, qui est celle du devoir, elle fait comme les planètes, elle tourne autour, n'est-ce pas ? Elle s'immobilise longtemps autour d'elle, et puis elle tourne autour de l'objet. Donc la gravitation résulte, si vous voulez, du conflit de ces deux forces contraires. À côté de cette tentation centripète, dont le centre est donc un objet qui n'est pas nous, hors de nous, que j'aurais pu ne pas rencontrer, je distinguerais une tentation centrifuge, plus dynamique, plus militante, et qui, contrairement aux apparences, joue un rôle très grand dans la vie de l'homme, et qui consiste surtout à tendre vers. À tendre vers l'objet lui-même. On peut pas dire qu'il soit tellement tentant en lui-même. La tentation de l'homme de monter au mont Everest n'est pas produite par les scintillements et les sourires de l'Everest, bien au contraire. On peut donc dire que, en effet, cette montagne est l'objet tentant. Il remplace la parure en pierrerie, en diamant, n'est-ce pas, qui nous arrêtait. Mais d'une autre manière, en vérité, nous sentons bien que la tentation est davantage dans l'homme, qu'elle vient davantage d'une spontanéité de l'homme. Si l'Everest n'existait pas, l'homme l'inventerait pour monter dessus. Et même, il est tenté vers lui, même s'il ne l'a jamais vu, ce qui est généralement le cas, bien entendu. Ainsi, voilà donc deux tentations que l'on peut distinguer l'une de l'autre, l'une plus passive, l'autre plus active, mais j'annonce immédiatement que cette distinction est plus professorale que réelle, n'est-ce pas ? Elle est faite à l'usage d'un professeur qui fait un cours. Car en vérité, vous auriez beau jeu de me montrer que d'abord, la tentation passive elle-même suppose l'effort et la résistance de l'homme, à sa manière, une résistance du sujet, et que inversement, dans la tentation active, soi-disant active, celle que nous étudierons en deuxième lieu, on pourrait retrouver tout de même, malgré les apparences, dans cette tentation, la voie de la facilité. À sa manière, bien que cela paraisse paradoxal, l'homme qui est tenté de se mouvoir, qui est tenté de faire, d'agir et de monter sur les montagnes, est à sa manière tenté par une certaine facilité, quoique cela paraisse pas tout de suite. Et sans cela, on ne dirait pas véritablement qu'il est tenté. Lorsque nous aurons étudié ces deux chapitres, si emmêlés l'un dans l'autre, il nous en restera un troisième, que je compte bien étudier aussi, et si l'année me le permet, elle est assez longue pour ça, ce troisième chapitre, ce serait, après tout, les moyens d'en user avec la tentation, l'éthique de la résistance aux tentations, problème tellement étudié par la théologie morale, et sur lequel, après tout, nous pouvons bien avoir un avis, nous aussi, tout en n'étant pas des théologiens. Alors, maintenant, commençons par le premier chapitre, puisqu'au moins la distinction des deux chapitres est claire, même si la suite ne l'est pas, et je crains qu'elle ne le soit pas. Nous allons étudier donc les situations dans lesquelles, les émotions morales, dans lesquelles l'homme est surtout patient, dans lesquelles celui que nous étudions est avant tout un homme tenté au passif, l'homme tenté par l'objet tentant, et dans lequel, comme je le répète, l'objet principal est le pôle magnétique de l'objet tentant. Il apparaît tout de suite que dans cette situation, la tentation apparaît comme un événement adventice, c'est-à-dire une expérience afférente, une expérience centripète que vient à faire l'homme en espèce de petit ange immaculé, qui n'avait pas de mauvaises idées dans la tête. Peut-être que les mauvaises idées trottinaient quand même dans sa tête de petit ange, mais enfin, nous faisons comme si, quand nous parlons de tentation, il n'y pensait pas. Il était comme un agneau sans tache. Il ne pensait pas à mal, et puis il a fait une mauvaise rencontre. Le petit ange est tenté. Donc, la tentation, étudiée dans ce chapitre, comme événement de la vie émotionnelle, la tentation apparaît comme le seuil de la vie déchue, comme l'initiation au mal, et comme un intermédiaire entre la chasteté supralapsaire, comme dirait un théologien, c'est-à-dire antérieure au péché, n'est-ce pas, comme on dit de Adam supralapsaire, la chasteté supralapsaire de l'homme qui ne connaît pas le mal, et la vie impure, le seuil de l'un et de l'autre. Eh bien, à cet égard, la tentation apparaît comme une émotion que la conscience innocente, censément innocente, éprouve un jour. Un jour, un beau matin, et même probablement dès ses premiers pas dans le monde, la conscience éprouve l'émotion tentatrice. Dès ses premiers pas dans le monde. Donc, la tentation est quelque chose qui arrive. Elle est un événement qui survient, advient, n'est-ce pas, survenir, advenir, dans tous ces verbes, il y a la venue, l'idée de venir, qui est, en somme, l'idée même de l'événement, au détour du chemin. La tentation est ce que l'homme rencontre au détour du chemin ou au carrefour. Eh bien, en cela, la tentation est liée au monde extérieur. Il est impossible de l'étudier sans faire, en faisant abstraction de ce cadre, de ce théâtre, le théâtre de toute tentation, qui est le monde extérieur, lequel est le lieu des rencontres. Le lieu des rencontres bonnes et mauvaises, des rencontres fortuites, plus ou moins provoquées. C'est donc dans le monde que se passe la tentation, que l'homme est tenté. Naturellement, vous me répondrez que c'est pas le cas de Saint-Antoine. J'y pensais pas. Saint-Antoine, il n'est pas tenté dans le monde, il est tenté dans le désert, justement. Il est tenté là où il n'y a rien. Il n'y a pas de vitrine de beau magasin, il n'y a pas de réclame au Léon, n'est-ce pas ? Il vit dans une grotte, il reçoit sa subsistance, des oiseaux, il partage avec les lions. Ben, par quoi est-il tenté ? Eh bien, il y a en effet, on peut concevoir, c'est un problème à résoudre, il est facile à résoudre, en effet, même de notre point de vue, on peut concevoir une imagination tentée, parce qu'elle suscite elle-même les tentations chimériques. Elle peut les susciter en plein désert, en pleine solitude. Et non seulement elles peuvent les susciter, mais vous savez que c'est généralement dans les dunes de sable que naissent les mirages. Sur le boulevard, les mirages ne sont pas des mirages, mais c'est dans le désert que naissent justement ces mirages et que Flaubert fait des défilés, tout ce film éblouissant, des tentations de Saint-Antoine qui sont purement imaginaires, qui sont nées de cette imagination échauffée, enfiévrée par la faim et par la soif. Donc, dans le désert. Les dunes de sable suffisent pour cela à l'ermite. D'ailleurs, on pourrait dire, mais cela ne nous dément pas, que Robinson dans son île, l'anachorète dans sa grotte, serait encore tenté, seulement il serait tenté moins tôt, simplement. C'est une question de date, n'est-ce pas ? Celui qui habite la grande ville est tenté dès qu'il sort, n'est-ce pas ? Dès son premier pas sur le boulevard. Tandis que pour l'ermite, il faut plus de temps. La question concerne donc la date, le tôt ou tard, mais elle ne concerne pas le fait que. Elle ne concerne pas ce que nous appelons quelquefois la quodité, le fait que l'homme est tenté, lui, est indépendant de l'espace. De même que la sollicitation du mensonge. L'homme qui vivrait tout seul aurait probablement, comme Robinson dans son île, aurait probablement très tard l'idée de mentir, puisqu'il n'aurait personne par rapport à qui se composer. Mais l'idée de mentir lui viendrait forcément tôt ou tard. Elle ne peut que lui venir parce qu'il prendrait conscience. L'homme prend conscience, et il prend conscience tout seul. Par conséquent, comme d'ailleurs le mensonge est lui aussi une tentation, la tentation de mentir, la tentation d'utiliser la facilité du langage, eh bien, cette tentation vient à l'homme par génération spontanée. Elle lui vient du centre, elle lui vient du dedans, sans aucune sollicitation. Donc, même si l'homme ne rencontre pas les occasions que le monde extérieur lui fournit à foison, même sans le secours des lectures, des spectacles qui font lever les mauvaises idées, pour reprendre les expressions des théologiens de jadis, éviter les spectacles, les lectures, etc., et même la fréquentation de vos semblables qui vous fourniraient ces occasions, même sans tout cela, l'inspiration nous viendrait du dedans. L'inspiration vient quand même et peut venir du centre. L'inspiration vient du centre, et d'ailleurs, comme vous le savez, c'est justement dans le désert, puisque nous en parlions en commençant, NTRMO, que Jésus est tenté. Le diable suscite devant Jésus l'image trompeuse des faux miracles et des dominations. Il les suscite sur la toile de fond uniforme du désert, de l'étendue grise, de l'espace vide. Ainsi, il ne semble pas que, malgré tout, que cette objection porte contre le fait que la tentation est une occasion liée au monde extérieur, car même dans l'espace vide, l'homme la recrée du centre, la recrée de lui-même. Seulement, le renouvellement des impressions afférentes par la perception sensible aide et accélère le processus tentateur, par le fait même que l'homme est le témoin du défilé. Le film varié et bariolé, le riche défilé des formes et des couleurs qui se déroule dans le temps, qui s'étale dans l'espace, accélère ce processus et incarne, en somme, la tentation mieux que l'imagination la plus échauffée ne pourrait le faire. Donc, comme vous le voyez, c'est simplement une question de plus ou de moins et simplement de date. L'histoire des tentations, l'histoire de la tentation, en cela, est simplement l'histoire d'une conscience déniaisée qui quitte le retranchement et la sécession de son innocence originelle, qui quitte la simplicité unie de sa petite enfance et qui rencontre, dans ses premiers pas dans le monde, qui rencontre les merveilles de ce monde et les soucis et les mille complications de l'existence adulte. À cet égard, le lieu privilégié des tentations, est-il besoin de le dire, mais vous pourriez le dire à ma place, c'est l'espace le plus riche, celui dans lequel la densité de vie est le plus grande, dans lequel les hommes sont le plus les uns sur les autres, c'est l'existence urbaine, c'est la rue et le boulevard de la grande ville, la rue où passent les passants, où scintillent les feux du néon, où étincellent les vitrines. Et, bref, il s'agit de... Du flot ininterrompu de l'autre, de l'altérité qui défile devant la conscience. Et c'est cela qui est le plus favorable. En tout cas, il semble bien que dans l'idée que l'homme puisse être tenté même sans le boulevard, n'est-ce pas, et même et surtout dans le désert, gît une idée profondément pessimiste, une idée profondément misanthropique, n'est-ce pas. L'idée que l'homme n'a pas besoin pour être tenté de voir les scintillements du monde extérieur est une idée pessimiste et qui me semble-t-il, aurait été très étrangère aux Grecs, comme l'était en général l'idée véritable de la tentation comme péché. Elle leur était étrangère. En effet, pour les Grecs, pour Platon par exemple, le Platon du sixième livre de la République, l'homme étant fondamentalement raisonnable, étant au fond raisonnable, et n'ayant aucune perversité centrale, aucune perversité irrémédiable, venue du fort intérieur, il n'y a aucune raison pour que le bon élève, lorsqu'il est bien édifié, lorsqu'on l'a mis en garde contre les arcs-en-ciel, etc., et la vanité des mirages, et contre l'a mis en garde contre les fantasmes de la place publique, contre l'éloquence des magistrats, des avocats, des orateurs sur l'agora, il n'y a aucune raison, dis-je, pour qu'il succombe à ces mirages, car la perversité n'est pas en lui. L'éducation suffit. Une fois suffit. Il suffit de lui avoir dit qu'un mirage n'est qu'un mirage et qu'un orateur n'est qu'un farceur. De ce jour, on peut dire qu'il est garanti contre l'illusion. Et au contraire, la tentation de Saint-Antoine, la tentation dans le désert, elle prouve que l'homme est, que l'homme retranché du siècle, comme l'est un ermite, comme l'est un anachorète, l'homme retranché des causes extérieures de l'action, et l'homme qui n'entend plus les musiques de la séduction, qui ne voit plus le jeu des couleurs, est encore tenté, n'est-ce pas ? Il est encore tenté parce que la tentation vient du dedans. Parce que la source des tentations, c'est l'homme lui-même. Mais là aussi, je m'aperçois que j'en dis beaucoup plus que je ne devrais en dire. Il me suffisait de montrer, pour commencer ce premier robot, le lien qu'il y a entre la tentation et la rencontre de l'occasion dans le monde extérieur qui est son théâtre, dans l'espace qui est le lieu privilégié des tentations. Pendant très longtemps, le dogmatisme moral et le dogmatisme religieux a conçu la tentation comme une expérience. Justement parce que ce dogmatisme n'a pas de considération pour la perception, n'a pas d'intérêt véritable pour la vie sensible, pour les renseignements qu'elle nous apporte, pour l'enrichissement que nous lui devons, pour la perception en général, pour cette raison même, la tentation est surtout considérée comme une épreuve que l'homme subit. D'ailleurs, c'est ce que signifie originellement le mot grec dont se servent les Septante dans la traduction de la Bible et dont se sert l'Évangile. Peirazein, peirasmos. Peirazein veut dire essayer, éprouver, et peirasmos est comme l'expérimentation, l'essai, n'est-ce pas, que l'on pratique sur l'homme pour voir s'il saura résister. Et ainsi, les impressions sensibles sont transformées en épreuves, sont conçues par le théologien, par la mystique, simplement comme une épreuve que l'homme subit pour essayer la trempe de son âme, pour voir si cette âme est faible ou forte, si elle est d'un bon acier, ou au contraire, si elle est d'un métal moins solide que celui-là. C'est donc parce que la tentation n'a pas d'intérêt et de valeur en elle-même, parce qu'elle ne sert pas à l'enrichissement positif de l'homme, qu'elle n'est, qu'en somme, qu'un instrument au service d'une finalité religieuse, d'une finalité supérieure. Tout est subordonné, en somme, à un système de référence, à un absolu moral, à une division du bien et du mal. C'est ce que nous verrons la prochaine fois en étudiant quelques sens de la tentation dans l'Écriture.